crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une œuvre du très grand artiste Vassili Kandinsky, l'un des inventeurs de l'abstraction. Il s'agit d'un de ses chefs-d'œuvre, la composition 6, une huile sur toile d'1,93 m par 300 cm, c'est-à-dire 2 m sur 3, une immense peinture dans laquelle on peut s'immerger. Elle a été réalisée en 1913. Elle est conservée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie.
J'ai porté le tableau en moi pendant 1 an et demi et j'ai souvent été amené à penser que je n'en viendrais pas à bout. Enfin, le jour vint et une paisible tension intérieure, bien connue de moi, me donna une certitude parfaite. Cette œuvre sera probablement l'une de ses plus démonstratives, où la marche vers le sens et le voyage à l'intérieur du tableau seront pour le spectateur attentif les plus forts et les plus bouleversants. Vassili Kandinsky.
Bonjour Philippe Serre.
Bonjour Jean.
Je rappelle que vous êtes philosophe, essayiste, critique d'art. Vous avez reçu le Grand Prix National de l'édition. Vos livres sont traduits en 10 langues. Vous avez été un ami proche de Nina Kandinsky, la veuve de Vassili, avec laquelle vous êtes entretenu. Vous avez eu accès à l'ensemble des archives de Kandinsky. Vous êtes donc un de ses grands connaisseurs. Et c'est une chance pour nous de vous avoir aujourd'hui ici. Vos livres ont été édités et réédités récemment, en particulier ce livre sur la philosophie de Kandinsky, qui s'appelle « Kandinsky, philosophie de l'art abstrait » chez Azan. Et je suis en train de regarder dans un autre livre que vous avez fait une immense reproduction de cette composition 6 qui avait été montrée à Paris il y a quelques années et qui est un des chefs-d'œuvre absolus de Kandinsky. Est-ce vrai? C'est un des chefs-d'œuvre de Kandinsky, Philippe Serre?
À mon avis, c'est le pèlerinage kandinskien par excellence. On peut aller même jusqu'à dire ça.
Ça voudrait dire que c'est un premier aboutissement ou une très grande étape de sa démarche que vous considérez être une démarche spirituelle?
Alors, c'est très probablement le moment où il a réussi à atteindre le niveau absolu de la peinture qu'il appelle la composition.
Qu'est-ce que ça veut dire ce mot composition?
Que Alexandre Kojève appellera le tableau absolu. Le mot composition, chez Kandinsky, il y a trois sortes de tableaux. Il y a ce qu'il appelle les impressions, qui sont des impressions du monde extérieur, des pochades, des observations dans la rue, dans la campagne, des visages. Il y a les improvisations qui sont, quant à elles, des impressions du monde intérieur. Ce sont les songes, les rêves, les rêveries méditatives. Ça peut même aller jusqu'au délire, puisque un de ces tableaux emblématiques, qui est la Toussaint, l'arrivée des marchands, puis la vie bariolée et la Toussaint, a été conçue sous l'influence du délire du typhus.
C'est vrai, c'est comme une hallucination. Et en fait, c'est assez curieux parce que je crois que dans les expériences qu'a eues Kandinsky, sans parler de ses intentions, on a le temps de revenir là-dessus, il y a eu des expériences fondatrices, on va pas toutes les énumérer tout de suite, on y reviendra, mais vous dites cela, rêve, hallucination, sorte de vision, c'est une plongée dans un monde intérieur, en fait, un sentiment intérieur.
Oui, et alors c'est très intéressant parce que c'est ce qui fera de lui le précurseur de Dada. Kandinsky travaille en 1914 avec Hugo Ball sur le projet d'un théâtre nouveau, d'un théâtre total.
Alors Hugo Ball, pour nos auditeurs, donc c'est l'un des grands artistes du dadaïsme, l'un des fondateurs du Dada,
avec Tristan Tzara,
lorsqu'au Cabaret Voltaire, ils ont fait en 1916, si je ne me trompe, donc cette fameuse soirée qui a instauré Dada et dans lequel Hugo Ball avait prononcé le poème Carawan, qui est un poème de mots inconnus, on peut dire. Et je crois que ce qui est important peut-être de souligner, c'est que Hugo Ball était lui aussi passionné d'architecture byzantine et quelqu'un qui avait une démarche spirituelle qui rejoignait par certains aspects celle de Kandinsky.
Absolument. Il a fini, on pourrait presque dire, en odeur de sainteté, Hugo Ball, dans ses montagnes suisses. C'était un personnage qui était, comme Kandinsky, appelé par l'idée d'une représentation spirituelle. Et avec Kandinsky, ils ont rêvé de ce théâtre et le Cabaret Voltaire est une scène de théâtre avant tout. Et les premières manifestations sont consacrées à une conférence sur Kandinsky et à une lecture de ses poèmes. C'est dire l'importance de Kandinsky vis-à-vis de Dada.
Hugo Ball a dit, je crois, que la présence de Kandinsky à Munich, je crois que c'était de Munich dont il parlait, faisait de Munich la ville la plus avant-garde du monde.
Exactement. Ce sont ces termes dans une lettre à sa sœur. Et alors, il y a eu cette influence de Kandinsky, cette influence de découverte de ce que les dadaïstes appelaient subconscient, plutôt qu'inconscient, préféraient le terme subconscient, qui est un terme plus large, et qui a conduit à l'accueil du hasard, le hasard étant au cœur du mouvement Dada, selon Hans Richter, son grand théoricien.
Alors, ce qui est curieux, vous parlez du hasard à propos de Kandinsky. Alors là, vous venez de citer Hans Richter, donc un grand artiste aussi de la même période, mais et cinéaste, inventeur du cinéma abstrait, on peut dire. En même temps, le hasard semble n'avoir aucune part dans le travail de Kandinsky. C'est au contraire un travail préparé, raisonné, organisé, avec des figures symboliques. Est-ce que je me trompe ?
Alors, ça n'est pas tout à fait exact. Il y a une... Vous savez, Kierkegaard définit le hasard comme ce rien dont tout peut sortir. Et il y a une ouverture de Kandinsky au spirituel qui fait qu'il accueille des événements imprévus et... C'est le cas, par exemple, pour sa composition 6, qui commence par un projet de tableau fixé sous verre. C'était une technique qu'il aimait bien à l'époque.
Parce que c'est une technique qu'il a découverte en Allemagne, je crois.
C'est une technique, oui, qu'il a découverte à Murnau. Et il avait fait un petit atelier de peinture sur verre avec et chose curieuse, c'est sa femme de ménage qui lui avait appris à faire les Fanny qui lui avait appris à faire les.
Mais pourquoi ça l'a intéressé la peinture sous verre, le fixé sous verre, comme on
dit ? Ça l'a intéressé parce que Kandinsky croyait à la sagesse populaire. Et les représentations populaires russes ou allemandes l'intéressaient beaucoup. Il y avait chez lui l'idée que le mythe est une préfiguration de la révélation. Un peu ce qu'on va retrouver avec le philosophe russe Alexis Losev qui parle du mythe absolu résumant tous les mythes antérieurs.
Mais quel rapport avec le fixé sous verre ?
Parce que le fixé sous verre, c'est une observation naïve des légendes populaires, c'est une représentation à la manière dont le peuple se les imagine, des saints et des grands événements de l'histoire du salut.
J'aurais cru que vous auriez pu dire que ça intéressait Kandinsky aussi parce que c'était... peindre à l'envers pour montrer l'envers de la peinture.
Alors,
parce que là, il y a un aspect symbolique. Tout d'un coup, on passe de l'autre côté du voile des choses, si je
alors,
puis dire.
Vous avez raison d'insister là-dessus, parce que schématiquement, le fixé sous verre, on commence par les détails, puisqu'on le voit à l'envers. On commence par les détails et on termine par les couleurs de fond. Ce qui fait que l'objet, c'est le modèle même de la fusion de l'objet dans la peinture. Et Kandinsky... on voit que visiblement, il a éprouvé ça puisque il a senti le besoin de faire des représentations en fixé sous verre qui ont leur correspondance en huile sur toile. Donc l'huile sur toile, c'est le contraire normalement. On devrait commencer par les grandes taches de fond et finir par les détails. Mais il peint ses huiles sur toile comme les fixés sous verre et c'est comme ça que se fait le passage à l'abstraction.
Et la composition 6, donc effectivement, c'est ça qui va se passer. Il va faire des dessins, des détails, travail des... Et ensuite, il va mettre cette tache nuageuse, ces grands nuages de couleurs, qui vont un petit peu, si je ne me trompe pas, occulter une partie de la révélation.
Oui, oui, on peut dire ça. C'est-à-dire, dans la composition 6, il commence par un fixé sous verre, qui est amusant, qui lui plaît, mais qui, au fond, lui paraît futile et lui paraît ne pas représenter du tout le déluge. Alors, on pourrait dire...
Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que la composition 6 a un thème, c'est le déluge.
Absolument, oui.
C'est important que notre auditeur le sache tout de suite, parce que c'est rare de dire pour une peinture abstraite qu'elle a un thème.
Elle a un thème, oui. Généralement, les grandes compositions de Kandinsky ont toutes un thème, jusqu'en 1914. Et puis après, elles sont uniquement décrites par, disons, leur contenu abstrait.
Alors, on va revenir précisément sur ce thème.
Sur
le thème du déluge. Mais juste avant, je voudrais qu'on écoute un tout petit extrait, trois lignes sur Regard sur le passé, un livre que vous commentez beaucoup dans vos ouvrages, comme un des livres majeurs d'une langue très extraordinaire, d'ailleurs, de Kandinsky.
Ainsi, tous les éléments, et même ceux qui se contrarient, ont atteint un parfait équilibre intérieur, si bien qu'aucun élément n'a la prépondérance, que le thème qui a inspiré le tableau, déluge, se dissout et se métamorphose en une essence intérieure, purement picturale, autonome et objective. Vassili Kandinsky.
Chers auditeurs, vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs et je suis avec le philosophe, essayiste, historien d'art Philippe Serre et nous examinons un des chefs-d'œuvre de Kandinsky, la fameuse composition 6 de 1913, consacrée, nous venons de l'entendre, au thème du déluge. Le déluge, Philippe Serre, c'est un thème qu'on dit eschatologique, c'est-à-dire que c'est une révélation sur la fin d'un monde. Est-ce que c'est cela ?
Chez Kandinsky, c'est la préfiguration du jugement dernier. L'Éternel est lassé par les hommes qui l'oublient, qui sont immoraux, meurtriers, voleurs, menteurs, etc. Et l'Éternel décide de supprimer les hommes de la face de la terre, excepté le juste Noé. Donc c'est une préfiguration du jugement dernier.
Mais c'est un apocalypse.
C'est une apocalypse, c'est-à-dire une révélation.
C'est le sens profond du mot apocalypse, une révélation.
C'est ça, du grec apokaluein, c'est ça, découvrir. C'est une révélation, au fond, de la miséricorde divine exercée sur le juste. Et ça va être une notion fondamentale pour comprendre le tableau, la composition 6.
Dites-moi, Philippe Serre, cet apocalypse dont vous parlez, ce jugement dernier, cette fin d'un monde, c'est une fin d'un monde désiré par Kandinsky. Est-ce que Kandinsky désire à ce moment-là, lorsqu'il fait cette peinture, un changement de monde ?
Je crois que...
Nous sommes en 1913, juste avant la guerre.
Nous sommes en 1913, il y a des tableaux qui montreront que Kandinsky pressent cet horrible entrechoquement des forces du mal et des résistances humaines. Mais ce qui est fondamental pour lui, c'est le souvenir de son expérience centrale, qui est le coucher de soleil sur Moscou.
Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors,
en quelle année ?
C'est relativement...
Mais c'est dans sa jeunesse. C'est...
On va dire 1886, il
D'accord.
est tout petit.
Donc il n'est pas encore peintre, bien entendu.
Non. Et alors là, en voyant Moscou s'embraser au soleil couchant, il ressent quelque chose qu'il note immédiatement, qui est une vibration de l'âme. Alors, ce point, vibration de l'âme, il ne s'explique pas pourquoi. Mais on retrouve cette notion chez Dostoïevski, chez Alyosha Karamazov. On la retrouve aussi chez Raskolnikov, à la fin, dans l'épilogue de Crime et Châtiment. Cette vibration de l'âme, c'est ce que ressent l'individu en face d'un dévoilement de l'absolu. Et il se pose beaucoup de questions, et ça devient le thème central de son œuvre, le coucher de soleil étant, au fond, compris par lui picturalement comme l'annonce de la mort et de la résurrection, du réveil de l'aube. Vous voyez ?
Je vois. Et ça, vous y voyez une relation directe avec cette composition que nous examinons ?
Non, la relation, c'est que l'apocalypse du déluge est une affirmation de la miséricorde divine, comme je l'ai dit tout à l'heure, exercée sur le juste. Et cette miséricorde divine, c'est la promesse de la résurrection qu'on va avoir, par exemple, dans la composition 5, qui est antérieure à la composition 6, ou qu'on aura dans le bois gravé de l'album Résonance, ce magnifique album qui a été réédité récemment par mes soins.
Album de poèmes.
Album de poésie et de gravure, où Kandinsky essaie de mettre en relation, on pourrait dire, des icônes et des hymnes. Une hymnographie autour du thème de la grande résurrection.
Alors, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous appelez les compositions des tableaux prophétiques dans votre texte. Vous appelez ça des compositions prophétiques. Alors, c'est une expression que vous avez, n'est-ce pas ?
Absolument. Je dois reprendre le fil, pour répondre à votre question, reprendre le fil de mon explication.
Allez-y.
Il y a donc d'abord les impressions, qui sont des impressions du monde extérieur, puis ensuite des improvisations qui explorent le monde intérieur. Le monde intérieur qui est représenté donc par le rêve, voire par le délire, mais aussi par l'inspiration, c'est-à-dire la voix de l'esprit, ce qui me parle à l'intérieur de moi et ce qui m'appelle à ma destinée du salut.
Pardon Philippe, donc pour que l'auditeur nous comprenne bien, impression, improvisation et composition, ce sont trois catégories que construit Kandinsky et qu'il utilise dans les titres qu'il va avoir ensuite et qui caractérise trois types d'engagement psychique, au fond.
C'est ça. Et c'est très, très précis chez lui. Et alors, la composition, le dernier stade, cette composition qu'il respecte à un point qu'il dit à un moment, le mot résonnait en moi comme une prière. Et il hésite longtemps avant d'oser la composition, parce que la composition va précisément consister à mettre en équilibre le monde extérieur et le monde intérieur. Autrement dit, à révéler le sens du monde des apparences par le message divin.
Bon, ça, c'est une œuvre mystique.
C'est pour ça qu'elle est prophétique.
Je voudrais juste pas vous reprendre, mais vous demander de préciser. Quand vous dites le sens divin, vous pensez réellement à la croyance de Kandinsky dans le divin ou dans l'art ? Est-ce que le divin, c'est l'art ? Est-ce qu'il y a une équivalence absolue chez lui ?
Alors, Kandinsky dit que son intention est de faire un art pur au service du divin. Mais en même temps, on a des moments où il explique que lorsque le tableau surgit, il est quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire il est à la fois un chant de louange, l'hymne à la nouvelle création qui suit la destruction, mais en même temps, il est un vivant, il est le vivant. C'est-à-dire la beauté. D'ailleurs, la beauté
en
russe.
Ça rejoint la théorie de l'icône, si je puis dire.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'elle est du type du divin.
Oui. Et ça confirme un propos, d'ailleurs, qu'on a chez Kandinsky, où il dit qu'il faut trouver toute la source de son art dans l'art russe du XIIe au XVe siècle. Et l'art russe du XIIe au XVe siècle, c'est l'icône.
C'est l'icône.
Comme Malevitch, il a sa source dans l'icône.
Alors, je vous propose d'écouter un instant René Farabet décrire donc cette œuvre de la composition 6. Et ensuite, nous allons plonger dans le tableau, une fois que l'auditeur l'aura bien visualisé.
Vassili Kandinsky, composition 6, 1913.
Le point de départ fut le déluge.
Déluge 1, peinture sur verre, 1911.
En haut, à gauche.
À gauche. L'arche de Noé.
L'arche de Noé.
Une forme ovale la surplombe. La protège.
Ovale.
C'est là que, dans l'icône canonique, se situe la main du Seigneur Sabaoth, le Sauveur. éclair, pluie, vague, un morceau d'arc-en-ciel, un chaos d'où émergent des formes humaines,
végétaux,
animaux,
rochers,
végétal,
hommes,
rocheuses.
Jeter la confusion parmi les formes sérieuses, mit lustigen äußerer Ausdrücken, en leur donnant des aspects amusants.
Donc nous venons d'entendre un début de description. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette fameuse toile, la composition 6. Là, ce qui était décrit, c'était une œuvre préparatoire. Et alors maintenant, on va rentrer. J'ai une question à vous poser, Philippe Serre, tout de suite. On est devant cet immense tourbillon rose, jaune, vaporeux, avec des bleus, des violets, des bruns, qui montrent effectivement des figures qui apparaissent, des figures très indiscernables. Ça me donne pas l'impression d'être un tableau abstrait, ça me donne l'impression d'être un tableau dans lequel des figures émergent.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, autant le premier, alors il y a trois tableaux de Koninsky consacrés au déluge, il y a une impression qui est le fixé sous verre, une improvisation qui s'appelle improvisation déluge, et la composition 6. Il n'était content ni du fixé sous verre, qui était trop anecdotique, trop figuratif, ni de l'improvisation déluge, dans laquelle il a cherché, dit-il, à retrouver l'essence du mot déluge. Et là, il faut savoir que en russe, déluge se dit patope, c'est-à-dire noyade. Et donc, il cherchait à retrouver l'impression que peut éprouver quelqu'un qui est immergé dans un tourbillon orageux et dans une tourmente marine. N'est-ce pas ? Et c'est dans l'improvisation, il y a donc ce tourbillon, mais il trouve que là, il ne reste plus rien de ce que vit le spectateur, le regardeur. Et à ce moment-là, la composition intervient, la composition qui présente trois centres. Elle présente un centre à gauche, qui est un centre qu'il décrit comme un centre délicat, rose, estompé, avec des lignes faibles et incertaines, un centre à droite, un tout petit peu plus haut, qui rappelle un autre tableau de Koninsky, d'ailleurs, la jaune-rouge-bleu, plus tardif. Un centre à droite qui est plus grossier, rouge et bleu, légèrement détonnant, dit-il, des lignes acérées, quelque peu méchantes, mais fortes et très précises. Et entre les deux, on va trouver le point le plus important, c'est-à-dire le centre principal. Et dans ce centre principal, il y a une écume de rose et de blanc, n'est-ce pas ? Et il semble, dit-il, ne pas reposer sur la surface de la toile, ni sur aucune surface, ce centre.
Il dit que c'est comme les bains de vapeur à Moscou. On
c'est
voit
ça.
Quelque chose d'éloigné.
C'est ça, oui, ouais. Oui, exactement. Et vous savez, les bains de vapeur en Russie, c'est très particulier parce que il fait très froid, on a froid, on est angoissé, il y a plein de neige, il fait moins 50, etc. Puis on va dans cet endroit très curieux, on s'assied, on se dénude pas entièrement, et puis on va dans la pièce du bain, ensuite on sort. On se fouette avec du bouleau, de l'eucalyptus, je ne sais quoi. Et on est avec des amis. Puis après, on s'assied et on boit une sorte de jus de fruits qu'on appelle compote. C'est des poires cuites dans l'eau. Et on parle métaphysique, théologie, tout ce que vous pouvez imaginer. Enfin, les idées les plus folles qui peuvent s'échanger.
Visiblement, il le pratiquait puisque c'est lui qui cite cette question l'apparition dans la vapeur des corps au loin.
C'est ça. Et là, on se sent complètement protégé, on se sent dans un état de félicité et dans une sorte d'extase métaphysique. Je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. Alors c'est pour ça que ce bain russe, il l'évoque à propos de ce dernier centre qui est quelque part, mais quelque part, on ne sait pas où c'est. Et là, il définit finalement, philosophiquement, ce qu'on pourrait appeler l'image métaphysique. Vous savez, sans ennuyer nos auditeurs avec de l'érudition...
Ils adorent ça, hein, vous savez, donc vous pouvez y aller.
Heidegger explique que c'est la fin de la métaphysique parce qu'elle est enfoncée dans l'oubli de l'être et dans l'appropriation du monde. Et que c'est l'art, et ça, de nombreuses personnes, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en sont persuadées, c'est l'art qui va prendre le relais d'une métaphysique déchue. Et là, Kandinsky nous offre le prototype de l'image métaphysique.
C'est quelque chose qui donne d'ailleurs un sentiment, moi je partage tout à fait ce sentiment, c'est que au début du XXe siècle, l'artiste s'est chargé de la responsabilité métaphysique de la société, puisque la religion s'était dénouée d'une certaine façon comme projet collectif.
Oui.
Hein, et c'est assez extraordinaire aussi de voir la gravité avec laquelle les artistes s'engagent dans cette voie spirituelle d'une certaine façon. En tout cas, c'est le cas de Kandinsky, n'est-ce pas ?
C'est ça, c'est son cas.
Alors, est-ce que vous pouvez me... Là, vous avez évoqué les trois centres du tableau, dont le dernier est celui qui apparaît, dont le troisième que vous avez cité, est celui qui apparaît en dernier, parce qu'il est très immatériel, c'est une sorte de vapeur. Et est-ce que vous pouvez évoquer les signes qui apparaissent ? Parce que j'aperçois des cordes colorées, des trompettes, qu'est-ce qui se passe ?
Il faut préciser que ces 300, le tableau tout entier est animé d'un mouvement. Et ce mouvement entraîne toute une série d'éléments qui sont à la fois dissous mais reconstruits. Il faut se rappeler que la composition, on peut la définir comme une mise en ordre des éléments en fonction du sens. Et donc cette installation des personnages qui se noient, de l'arche, qui d'ailleurs se trouve deux fois dans le tableau, une fois en haut à gauche et une fois de manière très très discrète dans le centre intérieur. On arrive à l'identifier.
Alors en haut à gauche, à côté d'une sorte de montagne, à côté du mont Arara.
Voilà.
Hein, on la voit se poser là. Donc là, c'est Noé qui préfigure le Christ, donc voilà. qui est sauvé du déluge par la grâce divine, si je puis dire.
C'est ça. Et alors là, il est Noé à sa fenêtre et il veille au grain, si j'ose dire. Et puis, on retrouve cette même arche au centre, dans le rose. C'est le lieu de la protection. C'est le lieu de la protection divine. Et elle est menacée par le serpent dragon, mais elle est sous cette protection. Alors, il y a le grand serpent dragon, il y a les éclairs, il y a la pluie, il y a les animaux qui se noient, on arrive à retrouver le gros poisson très satisfait, parce qu'il n'est pas concerné du tout par l'histoire.
Oui, il est très content, oui. On le voit de bonne humeur, c'est une sorte d'allusion à Jonas, ou une sorte de baleine qui est là.
Oui, c'est ça, oui, exactement, on peut penser à la baleine de Jonas. Et puis on voit des hommes et des femmes qui se noient, naturellement. Et alors, tout cela est entraîné par un tourbillon que Kandinsky a clairement identifié dans les dessins préparatoires, qui nous emmène par la périphérie, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vers ce centre rose et blanc, vers cette écume, ce quelque part qui n'est nulle part.
Est-ce qu'il y a, dans certains commentaires, j'ai lu qu'il y avait un couple allongé, comme une sorte d'union avec des nimbes autour de leur visage, une sorte d'Adam et Ève censés recréer un nouveau monde ensuite ?
Bon, le couple, il est quand même dans l'arche. On peut voir tout dans tout, mais là, je crois qu'il est difficile de voir le couple. Bon, il y a évidemment deux éléments qui pourraient l'évoquer et qui rappelleraient les éléments des différents tableaux Kandinsky consacrés à la résurrection, en particulier la composition 2, mais aussi d'autres tableaux où on a ce couple couché. C'est pas complètement exclu. Personnellement, je ne les identifie pas formellement.
Et alors, en bas à gauche du tableau, il y a des sortes de grandes trompettes. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est des rames de...
Alors ça, c'est clairement le serpent dragon qui surmonte l'abîme.
D'accord.
L'abîme, c'est la grande tache marron presque noire qui se trouve juste au-dessous du centre protecteur.
Donc on n'est pas dans un tableau abstrait, il y a un nombre de symboles lisibles, c'est une écriture.
Alors ce que Kandinsky veut nous faire éprouver, c'est la vibration qu'il a ressentie devant ce mot déluge. Et pour nous faire ressentir cette vibration, il y a une sorte de levée légère de la figuration et un renforcement des moyens intérieurs du tableau qui sont les couleurs et les lignes. Et à ce moment-là, il atteint ce qu'il appelle l'abstraction, mais après, il n'est pas content du terme, comme Théo van Doesburg, le grand théoricien.
Il préférera le mot concret, je crois.
Il préfère le mot concret, oui.
Donc pourquoi? Quelle est la différence entre un tableau abstrait dans l'esprit de Korniński et un tableau concret?
L'idée, si vous voulez, c'est que l'abstraction, c'est une dynamique. Et que l'abstraction, c'est un mouvement vert. Et ce mouvement nous conduit, chez Korniński, vers le contenu intérieur. Mais le tableau n'est pas abstrait au sens où il serait privé de contenu. Il n'est pas défiguré. Il y a encore une figuration, ou plus exactement, une représentation.
Est-ce que par le mot concret, il veut dire que le tableau est une réalité qui appartient au monde comme n'importe quelle réalité du monde?
Oui, qui va s'imposer, c'est exactement ça. C'est un être. C'est un vivant. Le tableau est un vivant qui s'impose. Et
donc
souvent,
ce n'est pas un simulacre. Ce n'est pas. En fait, c'est la différence par rapport au simulacre, au mensonge dénoncé par Platon, pourrait-on dire.
C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas cette illusion, cette duperie qui se trouve dans le simulacre, mais au contraire une représentation, c'est-à-dire un appel à la présence. Et le tableau se manifeste avant tout comme une présence, ce qui d'ailleurs distingue l'icône du simulacre.
Alors écoutons, vous avez parlé avec beaucoup de précision de ce qu'est une composition pour Korniński, donnons-lui la parole, écoutons-le, qu'est-ce qu'il en dit?
Dans la peinture de composition qui se développe sous nos yeux, nous discernons tout de suite la caractéristique de l'accession au stade supérieur de l'art pur. Les vestiges du désir pratique peuvent être complètement éliminés. La peinture peut parler d'esprit à esprit en une langue purement artistique. Elle constitue un domaine d'être picturo-spirituel. L'effort de remplacer l'élément objectif par l'élément constructif, effort conscient ou souvent encore inconscient qui se manifeste fortement aujourd'hui et se manifestera avec toujours plus de force, est le premier stade de l'art pur qui s'annonce, et pour lequel les époques révolues de l'art furent des phases inévitables et logiques. Vassili Kandinsky sur la peinture.
Nous entendions de la musique juste après ce propos de Korniński sur les compositions, où il fait une différence entre l'élément objectif et l'élément constructif. Moi, je pensais que les éléments objectifs pouvaient être constructifs.
Il faut bien comprendre la différence qu'il y a dans l'esprit de Korniński entre la construction et la composition. La construction, c'est la mise en ordre des éléments, on pourrait dire. C'est leur combinaison, c'est ce qui va faire que le tableau a un aspect organique, qu'il constitue un tout. Et la composition, c'est son élan vital. On pourrait comparer ça au corps et à l'âme, si vous voulez. La construction, c'est le corps du tableau, la composition, c'est son âme. C'est son élan vital, c'est-à-dire c'est le message essentiel qu'elle a à nous transmettre et à nous faire vivre, l'expérience intérieure qu'elle a à nous faire vivre.
Alors Philippe Serre, vous qui êtes historien, vous qui avez côtoyé la veuve de Korniński, qui est au fond un témoin tardif mais précoce par rapport à nous de sa vie et de son sillage, si je puis dire, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé et qui peut-être correspond à cette expérience intérieure que vous évoquez en parlant de son œuvre en général. Nous parlons dans l'émission Les Regardeurs plus de la composition 6, mais dans son œuvre en général, et qui pourtant a l'air d'être très présente dans la sonorité générale de l'œuvre que nous regardons, c'est la musique. Est-ce que la musique est une source de l'expérience intérieure de Kandinsky, et est-ce qu'elle se retrouve dans sa peinture?
Kandinsky était quelqu'un d'assez exceptionnel, qui était très bon musicien, il jouait du violoncelle et de l'orgue, et il a eu conscience que la musique avait fait une révolution intérieure que la peinture n'avait pas encore faite. Et il s'est guidé, par exemple, pour l'analyse des résonances des couleurs, de ce qu'il savait de la résonance des instruments de musique, pour arriver à situer cette résonance des couleurs. Par exemple, le bleu sonne comme le violon, le jaune comme la trompette, etc.
C'est rimbaldien.
C'est...
Je pense au problème des voyelles.
C'est oui, bien sûr. Ça, mais c'est plus fondé sur une expérience intérieure. C'est plus phénoménologique. Plus
synesthésique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce mot synesthésique?
Alors c'est une expérience centrale de Kandinsky, c'est que au moment où il voit Lohengrin, la représentation de Lohengrin au théâtre de la Cour à Saint-Pétersbourg, théâtre actuellement Mariinsky.
Là on est Wagner, hein, pour
Wagner.
Oui.
Au moment où il voit ça, il a les couleurs et les lignes de son Moscou qui se dessinent devant ses yeux. Et donc, il était doué de cette expérience qu'on retrouve chez Scriabine, chez quelques autres, chez Olivier Messiaen, cette expérience unique de faire immédiatement la liaison entre les sons et les couleurs.
Et c'est ça qu'on appelle la synesthésie.
C'est ça qu'on appelle la synesthésie.
Et qui a été très importante à la fin du symbolisme et au début de... Chez Baudelaire, on l'a,
bien sûr.
Et au début du XXe siècle, ça a été
les couleurs et les sons se répondent, etc. Oui, c'est fondamental. Mais c'est fondamental surtout parce que ça ouvre à la synthèse des arts. C'est-à-dire à l'idée d'une représentation complète, d'une sorte de liturgie de l'être. Alors la synthèse des arts commence au moment où deux arts sont associés dans une totalité organique. Que ce soit par exemple peinture et poésie, peinture et musique, ou peinture, poésie et musique, ce qui va construire la scénographie.
Vous avez l'impression que la composition 6 qu'on regarde est en quelque sorte une synthèse des arts, qu'elle a un aspect sonore et littéraire et plastique simultanément?
Quand nous nous trouvons en présence de la composition 6, pour laquelle Kandinsky demande de se rapprocher, de s'éloigner, etc., nous sommes emportés dans une véritable scène. L'idée de Kandinsky, c'est que le spectateur doit se mouvoir dans le tableau. Il doit entrer dans le tableau, s'y mouvoir et même presque s'y fondre. Et donc, c'est une synthèse.
C'est pour ça que c'est un tableau immense, quand même, 3 mètres sur 2. C'est un tableau dans lequel le corps est inclus.
C'est ça.
C'est des formats qu'on va retrouver à l'époque de l'abstraction lyrique de Barnett Newman.
Oui. Alors, si vous allez à Saint-Pétersbourg, par exemple, où la salle est absolument déserte, la salle de la composition 6, vous pouvez faire l'expérience. Elle est juste traversée de temps en temps.
Maintenant que nos auditeurs vont s'y précipiter, je pense qu'elle sera... La foule va s'y installer.
Elle est juste traversée quelques Japonais apeurés, mais on est vraiment tranquille. Et moi, j'y suis resté une fois 2 ou 3 heures, et je vous assure qu'on ne s'ennuie pas une minute. Je voulais vérifier tout ça.
Oui, on ne s'y ennuie pas parce que c'est une scénographie. Il y a une théâtralité générale qui s'adresse à tous les sens.
C'est ça. Et alors, on est aspiré, et puis on se pose des questions sur les fins dernières, sur la mort, sur la protection divine, etc. Ce qui est le centre de la méditation de Kandinsky.
Est-ce que vous trouvez, là vous parlez d'une expérience poétique et spirituelle que vous avez eue devant le tableau. Est-ce que vous trouvez, aujourd'hui, nous sommes combien d'années plus tard, 105 ans plus tard, 110 ans plus tard, 115 ans plus tard, c'est énorme. Est-ce que vous pensez que cette œuvre nous parle encore? Est-ce qu'elle a gardé sa force? Est-ce qu'elle apparaît dans notre sensibilité du 21e siècle toujours présente?
Alors, Kierkegaard définit la contemporanéité comme un présent absolu. C'est-à-dire, c'est le présent de ma rencontre avec l'absolu. Je pense que la composition 6 nous est vraiment contemporaine. Oui. Et je crois l'avoir vécu. Vous parliez tout à l'heure de vous poser une question sur l'art prophétique, je crois.
Oui. Et parce que vous appelez souvent les compositions des compositions prophétiques. C'est vous qui ajoutez ce mot ou Kandinsky l'évoque?
Alors,
je pense que c'est vous qui avez un petit peu exagéré, non?
En ce moment, on est en train de traduire le texte que vous avez cité tout à l'heure, Philosophie de l'art abstrait, en russe, et je discutais avec la traductrice, et elle me dit, il vaut mieux utiliser en russe le terme messianique. Mais Kandinsky parle de la mission prophétique de l'art. Il en parle nommément dans Du spirituel dans l'art. Et une partie de son œuvre est consacrée à explorer le contenu de cette mission prophétique.
Mais dans le messianisme, le mot messianiste, il y a l'espérance de la révélation qu'est l'Apocalypse. Et au fond, je sais qu'il y a eu ce débat avec Paul Klee, Franz Marc à l'époque. Mmh. Il y a eu, à un moment donné, une espérance de l'Apocalypse. C'est-à-dire, on risque d'être détruit, mais de ce drame va naître un nouveau monde. Et c'est comme si, à un moment donné, la guerre avait été finalement désirée pour en finir avec ce temps matérialiste. Est-ce que c'est une erreur historique de le considérer ou ça a bien été évoqué entre les artistes?
Pas du tout, ça a vraiment été vécu comme ça dans la génération du Cavalier Bleu, du Blauerreiter et dans le monde de Dada. Dada pensait que une destruction précéderait une construction. Un peu le processus de la composition, d'ailleurs, que Kandinsky qualifie comme une hymne à la nouvelle création qui suit la destruction. C'est un peu cet état d'esprit. Et d'ailleurs,
Le mot messianique est profondément juste dans cette hypothèse de traduction qu'on vous propose.
Oui, bien sûr, de toute manière...
Vous y êtes soumis.
Oui, je suis soumis parce que j'ai un profond respect pour la traductrice qui vraiment comprend très très finement toutes ces idées. Et donc il y a cette idée que l'art a une mission, cette mission est de nous parler, non pas obligatoirement de demain, mais de nous parler de notre dimension absolue, c'est-à-dire... De la mort et de la résurrection pour Kandinsky, qui est un chrétien orthodoxe fervent.
Alors, ça a été, je pense, ce qui s'est passé, c'est-à-dire une guerre tragique qui a amené à une autre guerre pire encore, il n'y a pas pire de toute façon, a dû être une démobilisation absolue.
Non, parce que c'était prévu, vous savez, l'idée d'un art dégénéré, vous savez, est très ancienne. La préfiguration existe déjà à Munich en 1912. C'est extravagant à Munich en 1912. Il y a Kandinsky, Duchamp,
Quirico,
et Hitler.
Mais
il y a trois personnages très curieux. Kandinsky, Duchamp et Hitler. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le grand débat où on veut vraiment éliminer Kandinsky parce que il parle d'un art nouveau. Au moment où il écrit Du spirituel dans l'art, il y a un déchaînement de violence, une réaction de l'art germanique. Et on voit là, à ce moment-là, les deux blocs déjà s'affronter. C'est ce qui va se reproduire au moment de la guerre de 39-45, au moment où il y aura une haine contre l'avant-garde, parce que l'avant-garde est un message de l'absolu et que le dictateur veut être le seul médiateur.
Cette incroyable rencontre en 1912 à Munich, qui fait qu'effectivement Marcel Duchamp était là, Quirico y était quelques mois avant, et d'autres. Je me souviens de l'exposition Kandinsky qui avait fait le Centre Pompidou, il y avait l'exemplaire lu en 1912 par Marcel Duchamp, souligné par lui, du spirituel dans l'art. Les idées circulaient absolument entre les artistes.
Il a pensé un moment traduire du spirituel dans l'art en français, Marcel Duchamp. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais il a gardé une amitié permanente pour Kandinsky, au point que...
C'est peu connu ça, parce qu'on en parle peu, on ne les imagine pas sur le même terrain.
Alors, moi, j'en parle dans un livre qui n'est peut-être pas assez lu, qui s'appelle « Sur Marcel Duchamp », où l'énigme...
Je vous demande pardon de l'avoir remanqué.
L'énigme Marcel Duchamp, l'art à l'épreuve du cogito, et où je montre, je m'attache à montrer, à partir des textes de Duchamp et des textes de Koninsky, la parenté qu'il y a entre la mariée mise à nu par ses célibataires mêmes et le grand album des résonances de Koninsky. Et la volonté de construire une œuvre picturale qui est un transfert d'évidence, c'est-à-dire qui nous permet de vivre, grâce à l'œuvre d'art, une expérience que dans notre vie, nous n'arrivons pas à déchiffrer.
C'est très important. Alors je rappelle à nos auditeurs qui nous prennent en cours de route que nous sommes en train de parler de Korninsky, nous avons particulièrement abordé la composition 6, on a la chance d'être avec le philosophe et historien Philippe Serre, qui est un proche de la famille de Korninsky, en particulier de Nina Korninsky. Et Philippe, je voulais vous demander que nous profitions de ces dernières minutes que nous avons dans cette émission pour deux choses. D'abord, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Korninsky jusqu'en 1913, même un peu sommairement, parce que, au fond, je ne sais même pas pourquoi il est parti en Allemagne. Alors que la Russie vibrait, les artistes étaient en train d'inventer là-bas aussi le futurisme, de répondre au cubisme. Il y avait un contexte qui fait qu'il aurait pu être excité de rester en Russie. Pourquoi est-il parti en Allemagne? Que s'est-il passé? Et ensuite, je vous demanderai quelque chose de plus, si vous le voulez bien, c'est de me parler de sa vie psychique et de parler des grandes expériences fondatrices de la pensée de Korninsky.
Alors, comme on peut le lire dans la magnifique biographie qui a été rédigée par Brigitte Herrmann, qui est la première biographie publiée au monde sur Korninsky, Korninsky est parti à Munich au moment où il a osé devenir peintre. Il avait auparavant...
Parce qu'il a commencé très tard. Il est devenu peintre à 30 ans.
30 ans.
Et auparavant, qu'est-ce qu'il s'était
fait ? Auparavant, il a fait des études de droit. Il a fait un doctorat de droit.
Il était dans une famille aisée, n'est-ce pas ?
D'ethnographie. Il était dans une famille de forbans qui avait été chassés de Moscou et qui était assigné à résidence en Mongolie. Et il avait d'ailleurs une grand-mère qui était princesse mongole. Et donc des traits asiatiques. Et sa famille avait fait fortune dans le commerce du thé.
D'ailleurs, pardon de vous interrompre, Philippe, ça me fait penser que très souvent, le fait de cette ascendance mongole, très souvent, il se réclame d'être un artiste asiatique.
Oui, il dit, vous ne pouvez pas comprendre, vous autres occidentaux. Nous autres orientaux, nous pensons par l'image.
Oui, oriental,
et il disait plaisamment qu'il était la réincarnation d'un sage chinois. Mais malheureusement, il n'a jamais pu aller en Chine. Et donc, comme jeune russe, il s'est senti appelé par le devoir de servir son pays. Et il a voulu le servir grâce au droit et à l'ethnographie. Mais à 30 ans, il a compris qu'il ne pouvait pas résister à sa vocation. Et là, il est parti à Munich. Munich, c'était la ville d'art, vous voyez, il y avait Munich et Paris. Mais à Munich, il y avait peut-être un peu plus de musique qu'à Paris. Ça l'intéressait, c'était la Kunststadt, la ville d'art. Et là, il est redevenu étudiant.
Avec von Stuck, le fameux peintre autrichien.
Il a étudié avec Franz von Stuck.
Il a repris la grande épée pour ses Saint-Georges.
Oui. Et Stuck lui a beaucoup appris. Il lui a appris à ne pas aller tout de suite à l'essentiel, mais à comprendre l'ensemble du tableau. Stuck était un très bon artisan, mais évidemment...
Grand artiste symboliste, très voilà, impressionnant, oui. Qui a, dans sa villa de Munich, fait une sorte d'œuvre d'art totale, en fait.
Oui. Et Korninsky est donc parti dans la peinture, s'est immergé complètement avec toute son âme. C'est-à-dire, c'était un personnage assez extraordinaire sur ce plan parce qu'il vivait intensément les choses. Et il y a eu une grande période d'angoisse chez lui qui a abouti à cette période de 1908-1913 qu'on appelle la période géniale, où il a vraiment fait un travail remarquable. Il a publié du spirituel dans l'art, les regards sur le passé, l'album Résonance. Il a théorisé
l'abstraction d'un point de vue général. Il a bouleversé la peinture.
Et on peut dire qu'il a été, en quelque sorte, l'instituteur de la modernité. préfigurant Dada. Si
mais un instituteur au sens philosophique, parce que c'était un instituteur effectivement très mystique. C'est une grande mystique, en fait, qu'il a développé un travail spirituel sur lui-même, comme à l'époque Mondrian ou Ilmaf Klint ou d'autres personnes comme ça, très spiritualisées.
Bien sûr.
Je voudrais que vous me rappeliez, parce que vous en parlez souvent dans nos conversations, vous faites souvent allusion à des expériences fondatrices de la vie de Kandinsky. Et est-ce que vous pourriez nous en rappeler? Je sais qu'il y en a 8 ou 9, mais au moins 2 ou 3 qui vous paraissent essentiels. Parce qu'il s'y réfère lui-même, Kandinsky, sur ces moments où tout d'un coup il peint les sabots trop noirs, où il voit les meules de Monet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces moments fondateurs? C'est comme c'est des moments, des portes d'entrée dans sa propre psychose, si je puis dire, ou comment est-ce qu'on pourrait dire ça?
Alors, il faut revenir dans le contexte de l'époque où il est très attaqué. Et là, il essaye d'expliquer son itinéraire spirituel. Et pour l'expliquer, il se raconte un peu. C'est le livre « Regard sur le passé ». Et il y a 9 expériences fondatrices qu'il raconte dans le désordre, dans un désordre chronologique. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que ce désordre chronologique était une composition. Il y a une expérience centrale, et puis il y a 8 expériences périphérique qui confirme cette expérience centrale. L'expérience centrale, c'est le coucher de soleil à Moscou. Et puis, les 8 expériences périphériques, c'est la découverte des moyens intérieurs de l'art, qui commence vers l'âge de 10 ou 12 ans, où il voit les couleurs sortir du tube et où il s'aperçoit que chaque couleur est comme un individu, comme un être vivant et qui a sa mission propre. Voyez. Puis ensuite, bon, ça continue avec Lohengrin que nous avons évoqué tout à l'heure, ou alors l'expérience de la rencontre des meules de Monet, où il s'aperçoit que un tableau peut très bien, au fond...
Racontez-nous les meules de Monet, c'est quand? Vers 1895, par là?
96, oui. Il arrive et voit un tableau tout à fait étrange, et il a l'impression qu'il n'y a pas de sujet. Et puis il part. Souvent on a cette expérience d'ailleurs chez les artistes. Ils partent et puis ils reviennent. Il part, il revient et il s'aperçoit que le tableau est très très beau en lui-même par cette symphonie des couleurs. Il retrouve naturellement sa symphonie des couleurs du coucher de soleil à Moscou et il prend conscience du fait que l'objet est presque inutile et parfois nuit dans le tableau. Il est nuisible.
Voilà. Ça l'amène vers l'abstraction,
ça,
en tout cas.
Oui, c'est exactement.
Mais est-ce que ça n'est pas, Philippe Serre, exactement la même impression qu'il a eue lorsqu'il y a cette fameuse épisode que vous pouvez peut-être décrire, du tableau renversé sur le...
Oui, alors c'est le crépuscule, donc les couleurs sont estompées. Kandinsky revient, il est plongé dans son rêve. C'était un rêveur, sur tous les plans. Et là, Kandinsky revient, il est plongé dans son rêve. Et puis dans son atelier, il voit un tableau qu'il trouve d'une étrange beauté. J'utilise ces termes. Et il ne le reconnaît pas tout de suite. Et puis brusquement, il s'aperçoit que c'est un de ces tableaux qui est posé sur le côté. Mais comme le crépuscule estompait les couleurs, et comme il était dans sa rêverie, il découvre autre chose dans le tableau, c'est-à-dire il découvre ce jeu de formes et de couleurs estompées qui constituent les moyens intérieurs de l'art, et qui mettent l'âme en résonance. La notion de résonance est fondamentale.
Qu'est-ce qu'il veut dire par la résonance? Alors, parce que effectivement, cette série de poèmes sur le thème de la résonance, qu'est-ce que c'est la résonance?
Kandinsky pense aux harmoniques en musique. Et il a un œil extraordinaire comme celui de Monet. Hein. Il faut savoir qu'il utilisait à peu près 500 ou 600 couleurs. Hein, Kandinsky, et comme l'œil de Monet, vous voyez. Monet, c'est un œil, mais quel œil. Les résonances, c'est un peu l'équivalent des harmoniques, vous voyez, en musique. C'est-à-dire que comme il a un œil exceptionnel, il voit autour des couleurs une sorte de halo. Un peu ce que recherchait Seurat, mais ce que Seurat fait de manière mécanique, vous voyez. Il voit autour des couleurs les complémentaires, mais aussi ce qu'il appelle des harmoniques, c'est-à-dire des couleurs proches qui la font sonner. Un peu comme quand vous sonnez une cloche et que vous avez les vagues successives. Et d'ailleurs, le livre, l'album Résonance, s'appellera en russe Zvuki, et sur la couverture, il y a le clocher d'Ivan Veliki, du haut duquel on sonnait le soir de Pâques, la nuit de Pâques, l'annonce de la résurrection du Christ, et ces cloches étaient reprises par toutes ces cloches du clocher d'Ivan Veliki de Saint-Jean-Climent,
les autres paroisses
étaient
autour.
Reprises par toutes les autres paroisses et par toutes les églises de l'immense terre russe. Donc on peut avoir une image de ces harmoniques qu'il recherche. Alors voilà ce que représente, si vous voulez, les moyens intérieurs de l'art pour lui.
Ce qui me paraît lorsque vous en parlez, c'est que il y a quelque chose d'extrêmement poétique et intuitif dans sa poésie, et qu'il a passé énormément de temps à essayer de mettre en ordre son hyper-perception.
Oui, on peut formuler comme ça, c'est assez juste. C'est assez juste. Cette hyper-perception qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines, hein. En traversant une rue, quand il était gamin, il était capable de réciter tous les magasins, le nom de tous les magasins, dans l'ordre, trottoir après trottoir, et en sens inverse. Et alors il explique cette curieuse faculté excessive de mémoire, donc cette hypermnésie, a disparu lorsque je me mis à peindre. C'est curieux.
C'est curieux, mais ça voudrait dire qu'il a fait que sa peinture absorbe son hypersensibilité,
c'est ça,
d'une certaine façon.
C'est ça.
Et
la
met en ordre, la contrôle grâce à cela, peut-être.
Oui, exactement.
Et
exactement.
C'est devenu, cet artiste, au fond, d'une sensibilité très particulière, est devenu à la fois un très grand théoricien, un petit peu avec une sorte de est-ce que je me trompe, est-ce qu'il y a eu une petite période plus calme dans la perception de son œuvre ensuite?
Alors, au Bauhaus, il est très pédagogue. En Russie, c'est foisonnant, mais au Bauhaus, il est très pédagogue. Et là, il explore assez calmement les résonances et il dispense un enseignement à ses étudiants. J'ai une anecdote à ce sujet. C'est un de ses anciens élèves qui s'appelait Jean Lepien, que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai compris la théorie des couleurs de Kandinsky, qui est assez difficile à comprendre, mais enfin que j'espère avoir expliqué clairement, j'ai téléphoné à Jean et je lui dis, tu sais Jean, enfin c'était un homme respectable, mais c'était l'époque où tout le monde se tutoyait, on s'aimait bien. Tu sais Jean, j'ai compris ce que voulait faire Kandinsky avec sa théorie des couleurs. Il me dit, ah, et c'est quoi? Et alors je lui explique et il me dit, bien, mais un jour j'ai posé une question à Monsieur Kandinsky et il me donne la question et il ne m'a pas répondu. Alors je lui dis, la réponse c'est ça. Il me dit, mais pourquoi il ne me l'a pas dit? C'était un Allemand. Hein. Alors j'ai dit, il ne te l'a pas dit, Jean, parce que il voulait que tu fasses le cheminement toi-même, parce que le cheminement est vérificateur. Et cette notion de vérification est absolument centrale chez Kandinsky.
Philippe Serre, vous nous avez bien expliqué ce qu'est et qui est Kandinsky, à la fois un grand maître de la peinture. Vous venez de le présenter plutôt comme un maître spirituel à l'instant même, puisque c'est une leçon spirituelle qu'aurait pu faire un maître zen, ce que vous venez d'indiquer. Et c'était passionnant de vous accompagner. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé Composition 6, un chef-d'œuvre réalisé en 1913 par Vassili Kandinsky. Et pour en parler, nous étions en compagnie du grand spécialiste, historien, philosophe Philippe Serre. Et je vous recommande vivement son ouvrage, un ouvrage de référence, Kandinsky, philosophie de l'art abstrait. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet, Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes, Georges Claes. À la technique, Delphine Baudet. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean de Loisy et Sandra Adam.
Come before you go, until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go.